Merci de l'invitation. Je vais effectivement développer un petit peu l'état de mes réflexions sur l'économie sociale et solidaire. Alors, dans son sens, parce qu'il y a pléthore de définitions évidemment, dans son sens strictement juridique, puisqu'il y a une loi depuis 2014 qui régule la diversité de cet espace. J'en parlerai dans un premier temps, puisque je ferai la distinction, je vous propose de faire cette distinction entre une économie sociale historique, puisqu'elle peut remonter au début du 19e siècle en France, à ce qu'on appelle aujourd'hui, au sens de la loi, donc l'économie sociale et solidaire, et qui se trouve de plus en plus pénétrée par de nouvelles pratiques qui se réclament de l'entrepreneuriat social, donc j'en dirai un petit peu quelques mots, en proposant de distinguer un modèle associatif français, un modèle historique associatif français qui est très lié à l'intégration des associations, notamment dans l'État social, donc qui se construit en gros de l'entre-deux-guerres aux années 70-80. Et depuis les années 70-80, ce modèle associatif français, il est justement traversé par ces nouvelles pratiques dans l'entrepreneuriat social qui en changent, à mon avis, profondément le sens et la nature des pratiques. Donc j'aurai quelques développements ensuite sur des choses un petit peu nouvelles qui sont les contrats à impact social, qui sont des pratiques de financement, qui sont des partenariats public-privé, pour aller très très vite, hein, qui sont des pratiques de financement inspirées du modèle anglo-saxon et qui sont développées maintenant en France depuis 2016. J'y reviendrai. Et tout ceci pose la question, compte tenu de l'importance de l'économie sociale et solidaire dans les services de soins et de santé et les services sociaux dans la tradition française. Hein, ce secteur, c'est un peu plus de 2 millions de salariés, 80% dans le secteur associatif. Donc voilà, donc c'est un poids aujourd'hui assez important au niveau économique. Interroge, à mon sens, et ce sera la deuxième temps de ma présentation, la place de la fonction publique, du modèle de fonction publique comme, je veux dire, espace professionnel de métier au service de l'intérêt général, pour dire très 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 vite, puisque le développement de l'emploi dans l'ESS et notamment dans le monde associatif, hein, ça j'y reviendrai aussi, pose la question de, c'est un peu le sens de mon titre à rallonge, hein, de finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister depuis quelques décennies à l'émergence d'une quatrième fonction publique, hein, voilà. Alors qui n'a évidemment de fonction publique que les missions, puisque le statut, c'est un statut de droit privé, comme vous le savez, hein. Donc quel est la position sociale, juridique de ces travailleurs au service de l'utilité sociale, comme je les ai appelés, que sont les travailleurs de l'ESS, mais plus spécifiquement en fait des travailleurs du secteur associatif. Voilà. Alors pour préparer la présentation, je suis parti des données des services du ministère de la Santé, des Affaires Sociales, qui administre un baromètre, hein, depuis 2000. Et dans ce baromètre d'opinion, il y a une question qui m'intéressait beaucoup, qui est quel est l'acteur pour vous, hein, central pour prendre en charge la solidarité. Alors les items sont proposés, hein, c'est pas une question ouverte, mais il y a trois modalités de réponse qui sont proposées. L'État, les individus, les familles, les associations. Donc voilà, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Et ce qui est très intéressant, contrairement à l'hypothèse qu'on pourrait avoir a priori, puisque sur cette période, on est dans un temps fort de l'ESS, hein, avec la loi en 2014, avec l'emploi salarié dans les associations qui explose. Hein, donc j'y reviendrai, mais pour fixer un peu les choses. On estimait donc que l'emploi salarié dans les associations au début des années 80 à 600 000 salariés. On est aujourd'hui à 1,8 million, plus de 1,8 million, donc un triplement de l'emploi dans les associations, hein, en 35 ans, voilà, qui est passé relativement inaperçu, puisque il n'y a pas beaucoup de travaux sur l'emploi associatif. On sait pas, même l'INSEE est très gêné d'ailleurs pour identifier ce type d'emploi. Justement, est-ce qu'on le met dans le public, est-ce qu'on le met dans le privé, c'est très délicat au niveau statistique. Donc longtemps, le secteur associatif, sur le plan économique, a été invisible. Donc voilà. Donc, et là, on a des chiffres maintenant régulièrement du fait de la visibilité de l'ESS. Mais ce qui m'intéresse dans ces données, c'est que justement, dans l'opinion pour l'instant, sans doute pour des raisons historiques, l'État reste la référence, l'institution de référence en matière de prise en charge de la solidarité au sens large. Alors, on peut faire des tri croisés sur ces données de l'adresse, et donc je me suis amusé à regarder par âge si quand même il y avait des petites variations, et effectivement, les plus jeunes, les 18-24 ans, ont tendance à un peu plus citer les associations. On arrive à 15%, c'est un peu au-dessus de la moyenne, voilà, chez les 18-24 ans, mais l'État reste quand même la réponse modale, puisque c'est 40% des réponses des 18-24 ans. Donc voilà, il y a un paradoxe qui est le point de départ de ma communication sur, en fait, finalement, l'État reste l'institution de référence, mais force est de constater que de plus en plus de services, je pourrais prendre des tas d'exemples, mais le temps est compté, dans le domaine de la prise en charge de la dépendance, dans le domaine, avec les EHPAD, dans le domaine de la prise en charge du handicap avec les ESAT, de l'insertion, de l'hébergement d'urgence des personnes sans domicile, de l'éducation populaire, de la politique de la ville. Enfin, je pourrais égrener comme ça tout un tas de secteurs dans lesquels l'ESS et plus spécifiquement les associations sont à la manœuvre. Voilà, ce qui explique en partie cette explosion de l'emploi associatif. Hein, voilà. Et donc, ce travail associatif, je le développerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, pose la question des transformations, à mon avis, de l'emploi public, sur lesquelles Émilie Villan a aussi beaucoup travaillé, sur la fonction publique territoriale. Donc, j'y reviendrai là-dessus. On a affaire donc à des travailleurs associatifs qui, pour le dire très très vite, hein, exécutent les missions du public au sens large dans les conditions du privé. Voilà. Pour le dire d'une formule. Oui. Alors le problème des formules, c'est qu'évidemment, c'est toujours plus compliqué. Alors. Voilà. Depuis 2014, on a donc cette structuration. On va retrouver les mutuelles, d'ailleurs, qui sont sorties, d'ailleurs, du périmètre. Bon. Depuis 2014, vous avez une institution qui s'appelle, que personne ne connaît, à part ceux qui s'intéressent à ce petit monde, qui est donc la Chambre française de l'ESS, qui est instaurée par la loi de 2014. Et cette Chambre française, donc, c'est de l'institution politique, hein, de représentation de l'ESS. Donc vous avez dedans les mouvements historiques de l'économie sociale historique, hein, la coopération, COPEFER, voilà, la mutualité française, 1902, créée en 1902, qui regroupe justement les mutuelles légitimes, les mutuelles officielles, les sociétés de secours mutuelles à cette époque. Le mouvement associatif, donc, qui est l'association des associations, pour vous le dire très très vite, qui existe depuis les années 90. Les assureurs mutualistes qui sont sortis de l'ESS en 2016, ils ont rejoint les assureurs capitalistes, pour le dire très très vite. Les fondations, puisque les fondations, le Centre français des fondations fait partie de cette Chambre française de l'ESS. Les fondations sont une des organisations de droit dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi de 2014, puisque donc avec les coopératives, avec les mutuelles et avec les associations. Vous avez le CNCRES, c'est donc le réseau national des chambres régionales de l'ESS, et vous avez les entrepreneurs sociaux qui sont les nouveaux venus dans ce monde de l'ESS, qui sont typiquement, qui se revendiquent typiquement de l'influence anglo-saxonne et donc qui visent à réconcilier les pratiques capitalistes avec des objectifs de justice sociale, pour vous le dire très très vite. Le Mouvet, c'est un mouvement qui s'est créé très récemment. Hein, je fais un petit zoom sur le Mouvet. Voilà. En 2009, avec d'anciens travailleurs sociaux en partie qui se sont justement requalifiés, recodés, reconvertis dans l'entrepreneuriat social. Pour n'en citer que quelques-uns, vous avez par exemple Jean-Marc Borello qui... est fondateur du groupe SOS, donc qui est une association qui revendique plus de 10 000 salariés, pour vous donner un petit peu l'ampleur de ce de ces groupes d'entrepreneuriat social et donc qui dans leur objet de départ, le MOUVES, hein, c'est bien écrit clairement, c'est l'objectif, c'est de développer une culture entrepreneuriale dans l'économie sociale historique et notamment dans le monde associatif en vue de structurer les entreprises d'économie sociale. Voilà. Donc je reviens à mon schéma dont j'ai fait le tour. Pour vous montrer ensuite donc le modèle historique associatif français, pour vous le dire très très vite, là je m'appuie sur des données qui sont comparatives. Il y en a très très peu, hein, et donc c'est des données qui proviennent d'une recherche internationale. Je vais aller très très vite, hein, qui a été démarré dans les années 90 et qui compare maintenant 41 pays. Voilà, on a des données alors qui ont été collectées sur 41 pays sur ce que les Américains catégorisent comme le non-profit sector, puisque la tradition d'économie sociale est quand même très européenne. Et donc les Anglo-Saxons raisonnent en termes de non-profit sector. Ils ont une définition statistique qui leur permet de définir un périmètre avec, je ne vais pas égrener la définition, mais vous avez en gros l'idée d'être indépendant par rapport à l'État, donc de pas avoir des représentants de l'État dans les organisations, d'avoir une libre participation à ces non-profit, donc c'est l'idée de bénévolat, et l'idée aussi de but non lucratif qui est très importante. Donc ils arrivent à définir un périmètre statistique qui leur permet de faire des comparaisons, et la France, donc, se trouve dans un des cinq modèles qu'ils ont identifiés, qui est le modèle du welfare partnership, donc partenariat avec l'État social, pour le dire très très vite. Et c'est, voilà, vous avez les trois caractéristiques de ce modèle qui sont dans ce tableau. La population active qui travaille comme salarié dans le non-profit est au-dessus de la moyenne. Hein. Vous voyez qu'on est en France à 9% dans ces enquêtes de la population active donc dans le non-profit. C'est 5,7 sur la moyenne des 41 pays. La deuxième caractéristique de ce modèle, c'est que cette force de travail, elle est dans des fonctions de services, hein, services sociaux, services de santé, voilà. Et on est donc en France à près de 2/3 du salariat de ce non-profit dans ces fonctions. Et bien sûr, le financement public y est majoritaire, largement. On est à 63% presque de financement public. Donc on est dans un modèle, voilà, très lié à l'État social. Alors je pourrais développer, il y a plein d'exemples de ce type de réseaux associatifs, comme l'UNIOPS, par exemple, qui fédère les associations d'action sociale au niveau national et au niveau régional, et qui est très présente dans le handicap, les services sociaux, etc. Voilà, vous avez tout un tas de grosses associations comme ça qui se sont construites, surtout à l'après-guerre. Hein, voilà, l'UNIOPS, c'est 47, vous avez l'UNAF, c'est 45, les associations familiales. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais on retrouve effectivement historiquement des exemples de ce modèle qui s'est institutionnalisé. Alors ce modèle historique du welfare partnership, pour moi, est en recomposition, en reconfiguration. Et donc notamment les nouvelles pratiques donc dites de l'entrepreneuriat social, justement, recomposent assez profondément cet univers, puisqu'on a des contrats à impact social qui ont été lancés. Donc, à partir de 2016, hein, c'est passé relativement inaperçu, mais puisque ça fait suite à une mise à l'agenda par des rapports officiels, donc en 2013, qui avait été dirigé par Huxibil, qui est un haut fonctionnaire, donc très investi dans le milieu de l'ESS, et qui avait plaidé pour la transposition de ces contrats à impact social dans le système de l'ESS français. Voilà, donc ils ont été lancés en catimini en 2016, et là, avec la nomination donc, de Christophe Ithier, qui est le haut commissaire à l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social, on a de nouveaux contrats impact social qui ont été lancés. Alors, pour vous définir ce dispositif, je vais reprendre les mots de Frédéric Lavenir, qui a été missionné par Christophe Ithier. Donc il s'agit pour l'opérateur d'économie sociale, d'obtenir un financement immédiat auprès d'investisseurs privés que la collectivité publique ne remboursera qu'à hauteur des résultats effectivement obtenus. Donc c'est là où on va mesurer l'impact social, et qui seront ces résultats seront constatés objectivement par un évaluateur externe. Donc le modèle de ces contrats impact social, c'est ce qui s'est passé en Angleterre avec David Cameron, avec la Big Society en 2010. Il y a donc un premier Social Impact Bond qui a été lancé, qui visait à faire baisser le taux de récidive des anciens détenus dans une prison à côté de Manchester, qui s'appelle Peterborough. Et donc les parties prenantes de ce contrat impact social ont donc mis en place un programme de suivi, d'accompagnement de ces anciens détenus par des associations, des charities, qui ont été financées par un investisseur privé. Et donc on a fait un suivi de cohorte, statistique, assez lourd, sur des milliers de détenus, pour montrer que les cohortes qui avaient été suivies par ces associations récidivaient moins que les anciens détenus non accompagnés par ces associations. Et donc l'État britannique a rémunéré l'investisseur privé, l'apporteur de capital privé, pour sa prise de risque sociale dans ce contrat. Donc on a là en fait un nouvel outil de financement du secteur associatif qui arrive à point nommé, puisque justement les subventions d'État, les subventions des collectivités territoriales sont en baisse depuis plusieurs années. Donc on a là c'est présenté comme une alternative financière à justement ce partenariat avec l'État social. Il me reste 3 minutes, c'est parfait. Donc j'en viens à mon deuxième point, qui est l'effet du développement de cette ESS et de ces travailleurs associatifs sur le plan des travailleurs du public, du secteur public, que sont les fonctionnaires. On voit là, vous avez les dernières données de l'INSEE de mars 2019 sur les flux d'entrée-sortie dans les trois fonctions publiques. Je vais surprendre personne, mais voilà, on a des entrées qui sont plus fréquentes maintenant de contractuels que de fonctionnaires titulaires. Donc on voit bien que ce qui a été l'objectif du projet, enfin de la loi, puisque maintenant la loi a été votée, de la loi sur la fonction publique, il est enclenché depuis plusieurs années avec une substitution, pour le dire très très vite, d'une fonction publique de carrière, donc avec un statut de titulaire, par une fonction publique d'emploi qui favoriserait le va-et-vient entre le secteur public et le secteur privé. Donc on voit que cette dynamique, elle est enclenchée, puisqu'on a maintenant plus d'entrées, plus de contractuels que de fonctionnaires. Et on voit maintenant aussi, là aussi c'est encore plus récent, que le nombre de fonctionnaires total en 2017 a baissé. Personne n'en a parlé. La presse fait très souvent les gros titres sur le poids de la fonction publique, etc. Là, le nombre de fonctionnaires a baissé, vous le voyez sur ce tableau, de moins 0,2%. Alors c'est très faible, mais c'est quand même la première fois depuis qu'on mesure l'emploi public qu'on enregistre une baisse du nombre de fonctionnaires titulaires. Et pour aller plus loin, le nombre de fonctionnaires au sens de l'INSEE, je ne retrouve pas mes notes, représentait 71,7% de l'emploi public en 2016 et représente en 2017 67,8% de l'emploi public. Donc on a bien une baisse du nombre de fonctionnaires qui va certainement se prolonger dans les années à venir, compte tenu des réformes en cours Et compte tenu de la pyramide démographique de la fonction publique. Donc voilà, la question que je soulève, elle est très claire. Hein. On a donc une professionnalisation de l'ESS qui tente à non pas se substituer, ça serait évidemment trop simple, mais en tout cas à coexister avec une fonction publique dont les statuts sont établis. Et ça ne va pas s'en poser, je terminerai là-dessus, hein, ça ne va pas s'en poser quelques questions, puisque si, compte tenu du fait de la faible prégnance, pour le dire comme ça, des normes bureaucratiques ou des normes du service public dans la pratique et le fonctionnement des associations, qui, on le sait, par différentes recherches, ont plus de facilité à sélectionner les publics auxquels elles délivrent des services que les services publics. Voilà.